CQFD, le magazine scientifique et médical de RTS Première.
Tiens, maintenant, on va faire parler l'ADN ancien, cet ADN qui appartenait à nos ancêtres et qu'on retrouve dans les ossements. Cette science, la paléogénomique, permet de plus en plus de faire parler les morts, justement, à savoir reconstruire les arbres généalogiques et étudier l'organisation à l'intérieur des familles. Et si vous nous en parlez aujourd'hui, Cécile Guérin, c'est qu'une étude récente parue dans Nature vous a titillé.
Oui, l'équipe de Laura Cassidy, qui est généticienne au Trinity College de Dublin, a analysé 57 génomes anciens provenant des sites funéraires de la tribu des Durotriges dans le sud de l'Angleterre. Et leur conclusion est assez étonnante pour cette période de l'âge du fer. C'est entre 100 avant et 100 après Jésus-Christ. Mmh. Ils ont découvert un groupe familial centré autour d'une lignée maternelle. Et donc, ça suggère que c'est le mari qui arrive en tant qu'étranger et qui dépend de la famille de sa femme dans ce village.
Waouh ! Et comment est-ce qu'on arrive à ces conclusions ?
Eh ben, la réponse se trouve entre autres dans l'analyse de l'ADN ancien. Mathias Cura est maître d'enseignement et de recherche au département de génétique et évolution à l'Université de Genève, il revient sur les origines de la paléogénomique.
Le premier ADN ancien qui a pu être séquencé, c'était dans les années 80. Et puis après, il a fallu des années pour que les méthodes s'améliorent. Et puis aujourd'hui, depuis on va dire une dizaine d'années, il y a de plus en plus d'ADN ancien, donc qui vient d'ossements ou de fragments de dents, qui est publié. Et c'est quasiment exponentiel. Donc en fait, les avancées sont assez spectaculaires.
Ancien, en fait, ça peut vouloir dire 100 ans, 150 ans, 2000 ans.
Exactement. Le premier essai, c'était un spécimen qui avait 150 ans. Et puis on remonte aujourd'hui, en ce qui concerne l'humain, en fait, on a certains ADN anciens qui ont 40 000 ans. Alors, ils sont très rares et très précieux aussi, mais c'est possible. C'est typiquement dans des grottes qui sont froides et puis où justement la température n'a pas tellement varié, le taux d'humidité non plus.
Donc on a de l'ADN de Homo sapiens et Homo néandertalis.
Donc on a plusieurs génomes aujourd'hui de Néandertal. On en a aussi d'Homo sapiens et puis on a même le génome d'un autre, on va appeler humain archaïque, qu'on appelle Denisova, qui a été retrouvé dans une grotte en Sibérie. Et ce qui est intéressant, c'est que on a que quelques fragments de dents et de phalanges pour cette nouvelle espèce, en quelque sorte. Et en fait, les chercheurs n'avaient pas réussi à identifier si c'était Homo sapiens, si c'était Néandertal. Et puis finalement, grâce à l'ADN ancien, on a pu déterminer qu'il s'agissait encore d'une autre espèce, probablement, qu'on appelle l'humain de Denisova.
Et cet ADN ancien, les archéologues vont le prélever lorsqu'ils et elles exhument des squelettes, c'est ça ?
Et oui, tout l'enjeu, c'est de récupérer l'ADN ancien de la personne et non l'ADN des bactéries du sol dans lequel se trouvent les ossements.
Dans les ossements d'un individu qui est mort, en fait, on peut retrouver de l'ADN qui peut se conserver pendant un certain temps. Simplement, cet ADN, il va se dégrader chimiquement et après un certain nombre d'années, il y aura plus rien. Mais lorsqu'on a des conditions environnementales qui sont assez favorables, eh bien, on peut avoir cet ADN qui se conserve même plusieurs milliers d'années, qu'on va retrouver en petits fragments. Donc en fait, en broyant les os ou les dents, on peut parfois retrouver un peu de cet ADN ancien. Donc en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va retrouver plutôt de l'ADN de bactéries, du sol ou des choses comme ça, sur les ossements qu'on va retrouver dans des sites archéologiques. Et puis, eh bien, quand on va séquencer l'ADN, on va principalement séquencer de l'ADN d'autres organismes que celui de l'os lui-même. Et donc aujourd'hui, on a des méthodes qu'on appelle bioinformatiques qui permettent en fait de trier cet ADN et de voir quel est celui qui vient vraiment de l'os et quel est celui qui vient d'autres organismes qui étaient autour dans le sol ou bien sur l'ossement.
Donc on récupère les données génétiques spécifiques de l'ancêtre à partir des ossements ou des dents, mais ensuite, les paléogénéticiens doivent encore reconstituer le génome.
Ça, c'est la partie très difficile parce que cet ADN ancien, en fait, il va se fragmenter en petits bouts, il va se dégrader. Mais en plus, on a des mutations qu'on appelle post-mortem qui vont apparaître dans l'ADN après la mort de l'organisme, donc qui vont compliquer les analyses. Et donc, on va obtenir qu'une partie d'un génome. Et plus on va aller loin dans le temps, et en fait, moins grande sera la partie du génome qu'on va récolter. Donc ensuite, c'est là qu'intervient tout ce qui est analyse bioinformatique. On a des méthodes statistiques, en fait, pour essayer de reconstituer un maximum des fragments de génome, de les remettre ensemble, si on veut reconstruire un peu le puzzle, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut reconstruire de ce génome ancien. Alors parfois, et très souvent, c'est vraiment des petites portions du génome, et puis des fois, on a de la chance et on arrive à aller beaucoup plus loin, parce que l'ADN est mieux conservé.
Et une fois ces génomes anciens obtenus, j'imagine que ça ne s'arrête pas là.
Oui, alors si on possède des parties de ces génomes anciens, donc suffisamment grandes et bien séquencées, on va les comparer et voir s'il y a des liens de parenté entre les individus afin de construire les fameux arbres généalogiques. Mathias Cura.
On sait qu'on partage ça, environ 50% de notre génome avec nos frères et sœurs. On va reconstituer ces génomes, les comparer, et en fonction de leur ressemblance, eh bien, on va pouvoir déterminer si ce sont des gens qui sont apparentés de façon proche ou plutôt éloignés. Et en fait, c'est de cette façon qu'on va reconstruire les pédigrés potentiels. Hein, c'est des reconstructions, donc on n'est jamais sûr, mais on a certaines statistiques qui nous permettent d'évaluer si ces reconstructions sont plutôt fiables ou pas. Et puis, on peut essayer de reconstituer ces généalogies du passé, en fait, et ces familles du passé.
Oui, donc finalement, on obtient l'album de famille sur plusieurs générations grâce à cet ADN ancien.
Exactement, mais c'est pas tout. En fait, les scientifiques scrutent également un autre type d'information génétique issue de l'ADN mitochondrial.
L'ADN mitochondrial, il se retrouve dans le cytoplasme de la cellule, donc hors du noyau. Et en fait, il est présent en grande quantité. Donc, il y a de nombreuses copies de ce génome mitochondrial, on va appeler ça comme ça. Et donc, il est plus facile à séquencer parce qu'il est assez abondant. Par contre, c'est seulement 16 000 paires de bases, donc 16 000 lettres A, T, C, G, etc. Comparé aux 3 milliards de paires de bases du génome, c'est une toute petite quantité. L'ADN mitochondrial, il est transmis en fait de la mère à ses enfants. Et donc, on appelle cet ADN mitochondrial un indicateur de la lignée féminine, c'est-à-dire qu'il est transmis chaque fois de mère en mère. C'est une petite partie de l'histoire parce que c'est seulement un lignage d'ancêtres, mais c'est une histoire qui peut être assez intéressante parce qu'elle permet justement de tirer des informations sur ce qui se passe au niveau de la lignée féminine, en fait.
Ok, donc on a les différentes étapes pour analyser de l'ADN ancien. Revenons maintenant à l'étude de Nature dont vous nous parliez au début, Cécile. Vous nous disiez que les scientifiques ont analysé des génomes anciens qui proviennent de sites funéraires du sud de l'Angleterre, des sites qui datent de l'âge de fer, donc on est autour de Jésus-Christ, hein, plus ou moins, c'est ouais. Ce que vous nous disiez. Ils et elles ont découvert donc un groupe familial étendu, centré autour d'une lignée maternelle. Ça voudrait dire que c'est donc le mari qui arrive en tant qu'étranger et qui dépend de la famille de sa femme dans ce village, c'est bien juste?
Oui, c'est tout à fait ça. Et dans cette étude, l'équipe de Laura Cassidy, avec cette analyse des 57 génomes anciens, a reconstitué cet arbre généalogique sur 6 générations. Et après, avec l'analyse de l'ADN mitochondrial, il apparaît que beaucoup de descendants viennent de la même ancêtre femme, Mathias Cura.
Donc là, par exemple, dans cette étude, en fait, ils ont vu que la plupart des femmes pour lesquelles ils ont pu séquencer de l'ADN portaient les mêmes variations au niveau de l'ADN mitochondrial. Et donc, elles sont probablement très apparentées. Typiquement, lorsqu'on a beaucoup d'apparentements dans une société, ça peut vouloir dire qu'on a une société qu'on appelle matrilinéaire, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui restent sur place et puis plutôt les hommes qui bougent de village en village, par exemple. En ce qui concerne la lignée paternelle, en fait, on va s'intéresser au chromosome Y, qui est lui transmis de père en fils, et qui nous donne aussi un peu le pendant de l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire la version paternelle. Et donc, en regardant la diversité qu'on trouve au sein de ces chromosomes Y versus la diversité qu'on trouve au sein de l'ADN mitochondrial, on peut comparer. Et puis, si on voit que, dans un village donné, par exemple, celui de l'étude, on trouve moins de diversité pour l'ADN mitochondrial qu'on en trouve pour le chromosome Y, ça peut vouloir dire qu'on a plutôt les femmes qui sont toutes apparentées. Et donc, c'est ce qu'ils trouvent ici et ce qui leur permet d'invoquer cette matrilinéarité dans ce village. Ils font aussi une série de simulations informatiques où, en fait, ils simulent des données virtuelles selon différents modes d'organisation sociale et puis ils regardent est-ce que ça ressemble à ce qu'ils ont observé ou pas, ce qui est le cas. Donc, en fait, ça leur permet d'affiner un petit peu leurs conclusions et puis de les rendre un peu plus robustes.
Les techniques de paléogénomique pour mieux connaître l'organisation familiale de nos ancêtres et les migrations de population. On se demande comment vivaient nos ancêtres. Par exemple, lors des mariages, est-ce que ce sont les femmes qui allaient dans la famille de leur mari ou étaient-ce les maris qui partaient construire un foyer ailleurs? Finalement, comment les populations de deux lieux différents se mélangeaient? Aujourd'hui, voilà, on essaie d'apporter des réponses à ces questions avec des archéologues, avec des anthropologues et ils se font seconder d'une certaine manière par des généticiennes et des généticiens spécialistes de l'ADN ancien pour répondre à tout cela, justement, Cécile Guérin.
Oui, et nous sommes partis il y a quelques minutes de cette étude où l'équipe de Laura Cassidy a analysé les 57 génomes anciens à partir des squelettes dans plusieurs sites funéraires dans le sud de l'Angleterre, des individus ayant vécu à la fin de l'âge du fer, 100 ans autour de Jésus-Christ, avant et après. Et dans les sépultures, les archéologues ont retrouvé que les hommes étaient enterrés avec un morceau de viande et un pot contenant une boisson, tandis que les les femmes avaient des objets de prestige, des miroirs, des bijoux et même pour une sépulture, une épée. Donc l'analyse des génomes montre en plus que les individus étaient liés par la lignée maternelle sur 6 générations. Autrement dit, les femmes restaient sur place, leurs maris rejoignaient la famille de leur épouse.
Et ça, c'est une organisation familiale assez rare.
Oui, la matrilocalité, le fait que les femmes restent sur place, c'est rare dans les bases de données ethnographiques modernes. Et en plus de cela, certains écrits des historiens romains à l'époque de la conquête de l'île mentionnent des femmes qui occupaient des positions de pouvoir, comme la reine Boudica qui déclencha un soulèvement contre l'occupation romaine. Jules César lui-même, dans la guerre des Gaules, rapporte qu'il y ait des femmes celtes britanniques participaient aux affaires publiques, exerçaient une influence politique. Alors, de là à imaginer une gang de femmes celtiques hyper puissantes à la fin de l'âge du fer en Angleterre. Alors attention quand même à ne pas s'emballer. Jocelyne Desideri est archéologue préhistorienne, spécialiste en bioanthropologie à l'Université de Genève. Elle revient sur cette étude.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'étude de Lara Cassidy et de ses collaborateurs a pu mettre en évidence qu'il y avait une ascendance féminine au sein de ces populations, c'est-à-dire qu'ils parlent de matrilocalité, ce qui veut dire tout simplement que les femmes mariées restaient dans leur lieu d'origine, et ce sont donc les hommes mariés qui vont rejoindre le lieu d'origine de leur épouse. Et c'est ça qui est intéressant.
Parce que c'est rare, normalement c'est le contraire.
Alors en général, pour des périodes plus anciennes, on parle plutôt de patrilocalité, mais même pour l'âge du fer, donc c'est spécifique vraiment à l'échantillon qu'ils ont étudié et à quelques autres échantillons. Alors après, on peut pas en faire une généralité. Donc on va pas pouvoir dire, à la fin de l'âge du fer, en Grande-Bretagne, on avait affaire à la matrilocalité, contrairement à d'autres régions. On va pouvoir dire, pour ce cas précis-là, on peut mettre en évidence une ascendance féminine qui tendrait à prouver que ce sont les femmes qui restent dans leur lieu d'origine et que ce sont les hommes qui se déplacent.
Est-ce qu'ils ont pu corroborer ces résultats trouvés sur les génomes, on va dire, avec les objets qu'ils ont trouvés dans les tombes, qui étaient, souvent il y avait des objets de grande valeur dans les tombes où il y avait des ossements de femmes?
On a des tombes riches, c'est hyper intéressant, ça veut dire que ces femmes-là, elles avaient une position dans la société. Est-ce que c'est ça qui donne le pouvoir? Non, c'est pas ça qui donne le pouvoir. Selon le contexte archéologique, on va pouvoir commencer à discuter des conditions socio-économiques de la société et donner un rôle plus important, genré ou non, mais on n'arrive pas à des réponses aussi catégoriques.
Et là, il y a aussi le lien avec ce qui avait été écrit par les Romains à l'époque de certaines femmes guerrières.
C'est vrai qu'on a des sources anciennes qui parlent de ces femmes guerrières, ces femmes de pouvoir. Certains émettent quand même quelques doutes sur la subjectivité des récits. Les populations de l'âge du fer n'ont pas écrit sur eux-mêmes. Ce sont les autres qui ont écrit sur eux. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre les sources anciennes comme des sources qui sont indicatrices. Il y a une marge un petit peu floue.
Bon, donc pour l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les femmes celtiques de l'âge du fer un peu de côté et on va remonter au temps du néolithique.
Oui, on fait un saut de 4000 ans en arrière et on se déplace de l'Angleterre vers le Valais et en Italie dans le Val d'Aoste. C'est dans cette région que Jocelyne Desideri et son équipe va enquêter à partir de 400 individus inhumés sur les sites de Colombey-Murat, Sion et Saint-Martin de Corléans dans le Val d'Aoste.
Alors, on s'intéresse aux premières sociétés agropastorales alpines helvético-italiennes. Donc, on travaille sur des populations néolithiques qui ont évolué entre le 5e millénaire et le 3e millénaire avant notre ère, en Valais et dans le Val d'Aoste. Et donc, on travaille sur ces 400 individus inhumés qui ont été retrouvés dans des nécropoles, que ce soit dans le canton du Valais ou dans la région du Val d'Aoste. Et ce sont ces premières sociétés agropastorales qui vont changer de type de société. Avant, on avait les chasseurs-cueilleurs et ensuite, on tombe sur des sociétés qui vont produire.
Vous allez aussi analyser, par exemple, ces génomes grâce à l'ADN ancien ?
On va utiliser une batterie de techniques diverses et variées, parce qu'on va essayer d'aborder des thématiques aussi variées comme les modes de vie, l'état sanitaire, les comportements alimentaires, les relations de parenté, les dynamiques de peuplement. Et pour répondre à tous ces questionnements sur ces populations-là, On va donc faire appel à l'anthropologie, donc les données sur le squelette, la génétique, la géochimie isotopique, à la paléopathologie et aussi à un peu d'archéobotanique, parce qu'on a un collaborateur qui va lui travailler sur le tartre dentaire qui est resté sur les dents de ces individus et qui va essayer d'extraire les restes d'aliments qui ont été piégés dans le tartre.
Que mangeaient nos ancêtres du néolithique ? La réponse se trouve dans le tartre des dents. Ça fait rêver.
Oui, en fait, il vaut mieux pas se faire détartrer les dents à l'époque. Comme
oui,
ça, on sait, on saura
pour
la science ce qu'on mangeait. Alors, en plus de ces questions sur les habitudes alimentaires, l'état de santé, l'accès aux ressources, les scientifiques vont analyser l'ADN ancien pour établir les liens familiaux et les déplacements de population. Jocelyne Desideri.
On n'a pas encore tout le séquençage. On a commencé à recevoir le sexe estimé par la génétique. Et on a croisé ces données-là avec les données de la géochimie isotopique qui nous parle de mobilité. Et on a essayé de tester justement un tout petit peu qui avait l'air d'être local et qui avait l'air d'être venu d'ailleurs, en tout cas être né ailleurs que dans l'endroit où il a été inhumé. Eh bien, on voit bien qu'il y a des différences selon les monuments qu'on investigue, en fait. Parce que tout l'art, c'est de se dire, est-ce que ce sont les hommes qui se sont déplacés? Est-ce que ce sont les femmes? Est-ce que ce sont les deux? Ou est-ce que c'est tout le monde, y compris les enfants? Eh bien, on a vu, selon certaines structures collectives, parfois on a l'ensemble de la population, enfants, adultes, hommes et femmes. Parfois, on a l'impression que ce sont que les hommes qui sont d'origine non locale et parfois ce ne sont que les femmes. Et donc c'est pas si évident d'avoir une réponse qu'on va pouvoir appliquer à l'ensemble même d'une population. On se rend compte qu'au début de la période, donc au début du néolithique, il y a moins d'individus qui se déplacent, mais ça touche un tout petit peu toutes les couches de la population. Et plus on avance dans la période, plus le nombre de personnes considérées comme venues d'ailleurs s'accroît. Et donc, on a, si au début de la période, on a environ 10% de personnes qu'on considère comme non locales dans les inhumations, eh bien, à la fin de la période, on a environ 30%. Et ce qui est intéressant, c'est que de part et d'autre des Alpes, on trouve le même pourcentage. 30% d'individus qui viennent d'ailleurs. Et ce qui est encore plus intéressant en travaillant entre le Val d'Aoste et le Valais, c'est qu'on a pour la fin de la période des sites qui sont jumeaux. D'abord, ils sont contemporains, donc ça, c'est le premier élément qui est relativement important. Ensuite, ils ont les mêmes constructions funéraires. Ce sont des dolmens à soubassement triangulaire. On a des mêmes stèles anthropomorphes. On a un mobilier qui est comparable. Donc, on a plein de points similaires entre les deux sites. C'est des populations qui se connaissaient, qui devaient entretenir des contacts. Et tout l'art est d'essayer de comprendre quelles étaient les relations, parce que les Alpes n'ont jamais été une barrière infranchissable. Et donc, on peut supposer qu'on a des individus qui ont dû passer d'un côté et de l'autre. Et on a envie de comprendre un tout petit peu. Ils se sont probablement rencontrés. Comment, quand, qui? Voilà. Et donc, c'est ce qu'on essaye gentiment de mettre en place et d'essayer de voir est-ce qu'on arrive à identifier peut-être même des relations de parenté, comme dans l'étude de Cassidy. Donc, avec l'anthropologie, on essaye d'utiliser certaines caractéristiques pour essayer d'identifier si les personnes sont proches biologiquement ou pas. Mais à l'heure actuelle, la meilleure méthode reste encore l'ADN.
Et donc on vous racontera les découvertes de ce projet sur les sociétés agropastorales des Alpes Valaisannes et du Val d'Aoste d'ici une année, le temps de finir les études.
Très bien, merci beaucoup Cécile Guérin et à votre micro aujourd'hui, Jocelyne Desideri, bio-anthropologue au laboratoire Arcane et Mathias Cura, maître d'enseignement et de recherche au département de génétique et évolution, tous les deux à l'université de Genève.
CQFD.